Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque semaine pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Nous entrons dans une période qui est connue pour être une période d'introspection et de bilan. Et nous avons décidé pour cette émission de voir un peu comment les rabbanim ont tiré des conclusions d'une année qu'on s'accorde tous à penser comme exceptionnelle, mais dans le pire des sens du terme. Mais une année folle. Et donc voilà, cette émission ce soir ne sera pas consacrée à la paracha de la semaine, mais à toute l'année, j'ai envie de dire. Rav Eli Lemel, je ne peux pas vous demander comment vous avez vécu cette année, mais par contre, parce que c'est indescriptible, est-ce que vous avez réussi à en tirer des leçons ou est-ce que vous vous dites, il y a des moments où, voilà, comment est-ce que vous avez appréhendé cette année? Lorsque vous regardez en arrière à l'approche des fêtes, qui sont à la fois des fêtes d'introspection et aussi un premier anniversaire, malheureusement, comment est-ce que vous regardez les choses?
Écoutez, je pense qu'une des particularités du peuple juif, du clan Israël, c'est au fond de se laisser interpeller par les événements et de savoir quelles leçons il doit en prendre. Évidemment, la question du pourquoi, nous n'avons pas à nous la poser, mais par contre, se dire qu'est-ce qu'on peut en tirer par rapport à nous, oui. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on s'est rendu compte au combien nous étions un Am Levada Dishkon, c'est-à-dire un peuple solitaire et seul. Et c'est vrai que si c'est une année qui s'est passée autour d'événements extrêmement lourds et tragiques, en même temps, on s'est rendu compte de cette singularité absolue du peuple d'Israël. Aucune forme de logique dans la manière dont nous sommes traités parmi les nations du monde. Et évidemment, j'ai presque envie de dire que ça renforce cette conscience que le clan Israël, au fond le peuple juif, c'est une histoire particulière que nous devons assumer pleinement. Et cette singularité, elle crée pour nous une responsabilité. Évidemment, on s'est rendu compte aussi du drame de la parole à travers tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et ô combien on peut dénigrer, détruire un peuple entier en utilisant tout simplement la parole. Eh bien, c'est peut-être aussi pour nous rappeler la vigilance que nous devons avoir à l'intérieur du peuple juif, justement, sur cette parole qui peut être destructrice. En même temps, cette solidarité extraordinaire, se sentir concernés les uns par les autres, alors chacun l'exprimait de manière différente, mais avec aussi peut-être une réflexion sur le fait que nous devons non seulement nous sentir solidaires, mais grandir spirituellement. Et je crois qu'on a ici tellement d'événements qui nous rappellent qu'il y a un Ribono Shel'olam, qu'il y a un créateur du monde qui est là, et que celui-ci, dans sa Torah, nous a demandé en tant que peuple juif de vivre pleinement ce que ça voulait dire. Non pas juste à travers le fait que nous sommes victimes, mais à travers le fait que nous assumions pleinement cette singularité dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et c'est vrai que, évidemment, certains vont dire « oui, c'est bon, vous pensez que c'est une panacée universelle ». L'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est de se dire si cette Torah qui nous accompagne depuis 3000 ans nous a dit ô combien notre histoire serait singulière et que nous le redécouvrons à nouveau de manière tellement forte, alors nous devons être à l'écoute de la totalité de son message, aussi bien Ben Adam Lamakom, dans le rapport qu'il y a avec le Créateur, que Ben Adam Lachavero, que dans le rapport que nous devons avoir avec l'autre. Voilà, c'est un petit peu ces quelques éléments, évidemment, c'est pas beaucoup hein, ce que je suis en train de vous dire, il y aurait sûrement beaucoup d'autres choses à dire et à réfléchir, mais peut-être commencer par cela et voir que nous n'avons pas le choix. Nous devons continuer à grandir, nous devons continuer à construire, nous devons continuer à avancer dans tous les domaines et surtout, nous rappeler que nous devons nous appuyer profondément sur le Créateur de l'univers. Il y a Israël, il y a une armée, il y a toutes sortes de personnes qui se battent dans tous les domaines, à tous les niveaux. Et évidemment, nous devons nous sentir profondément reconnaissants et jouer chacun notre rôle là où nous sommes, ne serait-ce qu'à travers une aide très concrète, mais aussi la tchila, la prière, à travers tous ces éléments qui nous permettent en effet de faire aboutir une histoire qu'on espère, Bezrat Hashem, la plus sereine, la plus harmonieuse, et dans un shalom réel et surtout devenu du Mashiach.
Ah, on parle du Mashiach ? Vous dites, on est rentré dans le dernier quart d'heure ?
Écoutez, le Gaon Mivilna nous explique qu'en effet cette période, et quand on regarde ce qu'il dit, va correspondre au pas du Mashiach. Tout le monde est d'accord que la fin de l'exil s'est terminée, que nous sommes dans un processus qui nous amène vers le Mashiach. Ani Hashem Beito Achishena, le texte dit « Je suis l'Éternel, en son temps je la hâterai ». Alors nos maîtres nous disent, alors si c'est en son temps, ça veut dire quoi, je hâterai cette délivrance? C'est, on nous dit, tout dépend de notre action à nous, et à nous de savoir faire bouger les choses. Rabbi Lubavitch a dit une phrase qui est la suivante, il dit « Un juif doit vivre comme si le Mashiach allait venir demain et continue à construire comme s'il allait venir dans 100 ans ». C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans un état de sidération, en train de dire « le Mashiach va venir demain, donc ça y est, on arrête tout ». Non, on continue à avancer, on continue à construire, mais évidemment, les événements s'accélèrent. Le Chafetz Chaim lui-même, déjà, en parlait il y a presque 100 ans, il parlait de cela. Il voyait en effet une accélération des événements d'histoire. Sous quelle forme, de quelle manière, tout ça, ça ne nous appartient pas. Mais je vous rappelle que ça fait quand même partie des 13 articles de la foi. Ani Ma'amin Be'emunah Shlema, et ces 13 articles de foi qui sont au même niveau que de savoir que la Torah a été révélée, qu'il y a un créateur de l'univers, nous devons y adhérer pleinement, continuer à avancer, continuer à construire, continuer à agir, et faire en telle sorte que cette Goula arrive, Borachamim, surtout dans la miséricorde.
Alors, j'ai vu hier un chiffre circulé. Est-ce que vous savez combien les Juifs américains, à eux seuls, ont fait de dons pour aider Israël dans cette période difficile depuis le 7 octobre ? La réponse est près de 900 millions de dollars. Alors évidemment, c'est des critères qui sont américains. Mais il y a aussi une deuxième chose qui est très frappante depuis le 7 octobre, c'est cette solidarité instantanée. Et vous parlez de Mashiach, le retour de gens extraordinairement loin. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous a beaucoup frappé ?
Alors c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé de voir cette capacité qu'ont eu beaucoup de gens de se remettre en question. Et j'ai demandé à l'un des plus âgés de France, le rabbi Yitzhak Weil, ce qu'il en pensait. Il me disait qu'au fond, chacun d'entre nous sait quels sont les points sur lesquels il doit progresser. Et ça, c'est extrêmement important. C'est sûr et certain qu'il y a quelque chose de bouleversant. Rappeler aussi l'importance du zechout, du mérite de l'étude de la Torah. Pas juste d'aider ceux qui étudient, mais chacun d'entre nous rajouter aussi un petit peu d'études. Et c'est vrai que on est là et on constate qu'en effet, vous savez que le peuple d'Israël est appelé Adam, l'homme, l'humain. Pourquoi ? Eh bien, disent nos maîtres, parce que quand un petit doigt a mal, c'est tout le corps qui a mal, on se sent concerné les uns par les autres, et on agit. Et c'est sûr et certain que tout cet investissement doit être autant de zochouyot de mérite pour le peuple juif, mais surtout se rappeler de l'importance de grandir dans tous les domaines, et surtout, ben adam la chavero, dans la relation à l'autre, juger positivement, ne pas faire de médisance, être à l'écoute, savoir renoncer. C'est des choses qui sont tellement merveilleuses que cette transformation de l'être, peut amener à beaucoup de choses, en même temps que l'importance du Shabbat, que chacun comprenne que Shabbat est au cœur de l'identité juive. On n'est pas obligé au début de tout faire si on n'y arrive pas, mais réinscrire cette dimension du Shabbat dans notre vie pour avoir le Shabbat définitif de la Goula Shlema, clairement.
Puis alors, il y a, pour nous, Juifs de France, c'est aussi quelque chose qui s'est ajouté, c'est les élections. C'est-à-dire qu'on a vécu tout ce qu'on vient de décrire, que vous venez de décrire. Et puis alors, tout d'un coup, en fin d'année, des élections avec deux vainqueurs qui sont deux formations aux extrêmes de l'échiquier politique. Et puis surtout, pour beaucoup d'entre nous, voir le triomphe dès le premier tour de gens qui nous ont fait un mal dingue. Émeric Caron, je vais pas.
Oui,
les cités sont trop nombreuses.
C'est pas une mitzvah de les citer, d'ailleurs. C'est vraiment pas une mitzvah de les citer. Oui, clairement, ce qui est intéressant, c'est cette parole totalement décomplexée. En vérité, vous savez, les maîtres du Talmud nous le disent, « Chutzpah yasgé », une des caractéristiques de l'époque pré-messianique, ce sera « chutzpah », c'est-à-dire cette insolence, cette impudence, le fait d'être capable de dire des choses complètement folles. Ben, on met Israël au même rang que la Russie, alors que dans un cas, on est agressé, dans l'autre cas, on agresse. La distorsion de la vérité, vous savez, moi, je trouve ça incroyable, parce que le traité de Talmud dans Sota nous décrit tellement d'éléments qui sont présents. Il y a Emet et Nederet. La vérité sera Nederet. Alors elle sera à la fois cachée. Rashi sur place dit Adarim, Adrim, des troupeaux de vérité. Chacun a sa propre vérité. Le Hawkism qui arrive et qui décide que, ben, au fond, c'est ce que je dis qui est vrai. Enfin, c'est assez incroyable de voir comment nos maîtres voyaient parfaitement ce qui était en train de se passer. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose sur lequel il faut qu'il y ait une vigilance. Mais en même temps, on a l'impression, comme une forme de clin d'œil qu'on aurait peut-être préféré autrement, mais qui est là du créateur de l'univers et qui nous montre, et qui nous dit, mais peuple juif, vous resterez différents. Klal Israël, regardez, il y a des élections en France, et vous êtes au centre. Mais vous ne représentez rien dans l'arithmétique mondiale et l'arithmétique française, et pourtant, vous êtes là, et au centre, et on en parle. On dit, mais c'est pas possible, c'est pas logique. Eh bien si, on le constate. Alors évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, singularité, notion de responsabilité, ça veut dire que au lieu de s'insurger sans arrêt, bien sûr, il faut qu'il y ait une réaction classique, politique, etc. C'est normal, ça fait partie des choses normales et on doit agir comme la logique nous demande de le faire dans ce genre de situation. Mais se rappeler que le combat est ailleurs, qu'il y a un combat spirituel qui est en train de se jouer, et les maîtres de la Kabbale nous disent bien que avant justement cette époque pré-messianique, il va y avoir en effet une forme d'opposition très très forte entre ce que représentent les valeurs de la Torah et les valeurs, entre guillemets, du monde qui nous entoure. Et c'est là où les choses vont se jouer. Et peut-être que justement le voir doit nous renforcer encore plus, non pas à lutter contre. Et je rappelle ce mot que j'ai entendu d'un maître il y a justement un peu plus d'un an, qui nous disait, vous savez, on ne repousse pas l'obscurité à coups de bâton, mais on rajoute de la lumière, et c'est peut-être ça notre enjeu.
Magnifique. Ça sera... Il faut que ce soit notre mot de conclusion. Ravelli Lemel, merci pour cette très belle parole. On espère évidemment que tout ça se terminera avec une clarté éblouissante, et pourquoi pas dans les jours qui viennent, et pourquoi pas à Simchat Torah. Je vous remercie, Ravelli Lemel. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Rav Mordechai, en ces jours qui sont, dit notre tradition, des moments de réflexion et de bilan, je vous ai demandé, à vous les rabbanim, de nous dire quel est le bilan et surtout quel éclairage vous avez envie de nous donner sur cette année terrible. D'abord, vous, en arrivant ici comme ça, de but en blanc, quel bilan vous faites sur cette année qui, pour nous tous, on le sait, hein. Vous savez, moi, quand je suis parti faire mes études en Israël, c'était l'année Tashmad. Et tout le monde se demandait, mais pourquoi? Il y a une année qui s'appelle « Et tu détruiras » ou « Il a détruit ». Quel bilan vous faites-vous de cette année, Rav Mordechai?
J'en tire trois bilans très courts. Le premier d'abord, pour le faire court, le premier d'abord, c'est je me renforce dans ce que Maïmonide dit dans les lois du jeûne, à savoir que quand il y a un mauvais décret qui s'abat sur le peuple juif, la première chose à faire, c'est faire teshuvah. Il ajoute que si on attribue le mauvais décret au micré, c'est-à-dire au hasard, je dirais aux lois géopolitiques, géostratégie militaire, etc., eh ben, on renforce en fait le mauvais décret. Ce qui nous est arrivé le 7 octobre, Hachem nous a parlé. Hachem m'a parlé. Hachem nous a dit individuellement et collectivement un certain nombre de choses. Et moi, j'applique la recette du Rambam, Maïmonide, qui me dit, dans ces cas-là, il faut faire teshuvah. Donc ça, c'est la première leçon que je tire dans un contexte géopolitique de décret, de persécution, de meurtre, d'assassinat, d'éveil de l'antisémitisme. D'abord, j'applique ce que Maïmoni me dit. Je fais teshuva, et ça, c'est la première chose que je vois. Je vois que c'est la première chose qu'il faut se renforcer. En même temps, on se renforce dans la Emouna. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les choses au niveau politique stricto sensu, on ne voit que des impasses. Et quand on ne voit que des impasses, on devient fou. On perd le sens de l'histoire. Or, l'histoire juive, elle a démarré au Mont Sinaï et elle doit s'achever avec l'avènement messianique. Et elle va passer par toutes sortes de péripéties. Ce n'est pas la première fois qu'on est dans des configurations d'impasse politique ou d'impasse militaire, en tout cas à l'heure où je parle. Ça, c'est la première chose que j'apprends. La deuxième chose, c'est qu'il y a toute une série d'acteurs qui semblent être nos amis et qui sont en fait des gens qui, d'une certaine manière, ont des attitudes un peu déconcertantes. Je veux parler des Américains et des Européens. C'est des gens qui ont des attitudes amicales au départ, après le 7 octobre, et qui très vite vont se retourner. Alors, il faut savoir que Rabbeinu Bechaye, dans son commentaire sur Esav, Esaü et ses descendants, dit que ce sont des gens qui peuvent être ou oyev, c'est-à-dire des ennemis amers, ou sonnés ou des gens qui nous détestent. La première chose, d'abord, que tout le monde m'a demandé, c'est pas vrai, il y a plein de gens qui nous aiment en Occident. Oui, c'est vrai. Mais quand ils se mettent à nous détester ou à nous persécuter ou à nous poursuivre ou quand ils se mettent à nous en vouloir, ils deviennent ou des oyev, des ennemis amers, ou des sonnés, des gens qui nous détestent. Et il ajoute qu'ils peuvent même nous détruire, nous détester berachamim, avec bonté. Ben, je vois là-dedans l'attitude de la gauche américaine, l'attitude de Blinken et de Biden. Biden est quelqu'un qui nous a soutenu dès la première heure. C'est quelqu'un qui est venu, qui a donné des armes, il y a des porte-avions. Les Américains sont là, ils ne bougent pas, ils nous défendent. Mais d'un autre côté, sur le plan politique, ils sont réellement dans la persécution d'Israël. Ce sont des gens qui ont freiné de mille et une manières l'avancée de l'armée israélienne à Gaza. Ils ont retardé le travail de l'armée de 3 à 4 mois. Et on peut dire qu'une certaine manière, et ils le font au nom de la Rahmanout, au nom de la bonté. Soyez pleins de bonté envers ces populations, envers ces terroristes, envers tous ces gens-là, et tout, etc. On nous appelle à la bonté. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Rabbeinu Bechaye appelle nous persécuter dans la bonté. Ils vont même nous haïr dans la bonté, dans la rachamim. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser la bonté, en fait, pour que nous soyons les instruments de notre propre limitation à réagir contre des gens qui veulent nous détruire. La troisième chose que je vois, c'est que quand le Zohar dit que Ishmaël, quand les Bnei Israël vont revenir en Eretz Israël, s'installer en Eretz Israël, que les Bnei Ishmaël, les héritiers de Ishmaël, vont lancer des guerres dans le monde entier, lanceront des guerres sur la terre d'Israël, empêcheront les Juifs de revenir en Israël, empêcheront les Juifs d'être dans la sérénité en Israël, je vois que ça se réalise sous nos yeux. Alors je suis comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quand il voyait des renards qui passaient dans les ruines du temple, il riait. Parce qu'il disait, si la prophétie qui annonçait la destruction s'est accomplie, celle qui annonce la reconstruction se réalisera.
Se réalisera aussi.
Alors moi, je nous appelle à être des élèves de Rabbi Akiva. Ce n'est pas la peine de pleurer. Il faut se battre, il faut beaucoup se battre, politiquement, spirituellement, militairement, à tous les niveaux. Mais d'un autre côté aussi, il faut être confiant. Il faut être dans cette confiance de Rabbi Akiva. Si les prophéties qui nous annoncent que Ishmaël va se lever et qu'on aura à souffrir de Ishmaël, elles se sont réalisées, les prophéties du Zohar, les prophéties du Midrash, alors ça veut dire que celles qui nous annoncent qu'on est à quelques encablures de la révélation messianique et de la fin de l'histoire, elles se réaliseront aussi. Et je précise à celles et ceux qui nous écoutent que je ne suis pas un illuminé messianiste taré. Je prie 3 fois par jour comme n'importe quel juif et je regarde ce qui est marqué dans nos textes et ce qui est marqué dans mon livre de prière. Je suis un homme très rationnel.
Alors, il se trouve qu'il y a une multiplication de choses. Il y a donc tout ce que vous venez d'évoquer sur le Proche-Orient. Mais pour les juifs de France, en plus de ça, les élections sont venues avec un goût absolument incroyable. On se disait... Où des gens se sont posés la question. Vous savez qu'il y a des gens que je connais et qui l'ont dit à l'antenne. Moi, je vais voter pour un LFI soft parce que comme ça empêche un LFI dur de passer. Enfin, on a entendu des choses, mais à la limite, là, je rentre vraiment dans le détail, c'est presque pas intéressant. Comment ça se fait qu'en plus, après, les auditeurs, les juifs de France, ont vécu cette période électorale folle? Et puis, comme je sais que vous êtes un grand intellectuel, le coup des Jeux Olympiques qui vient dessus, c'est presque irréel. Tu fasses une année la pire de ta vie et tout d'un coup, tu as une espèce de fête mondiale Disneyland en bas de chez toi qui est absolument incroyable. Comment vous avez vu tout ça?
Concernant les élections, ce n'est pas la première fois que, dans une période de Reconquista, c'est ce qui s'est passé en Espagne, hein, au XVe siècle, il y a eu des guerres entre les chrétiens et les musulmans. Donc les juifs étaient au milieu de cette Reconquista, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ce n'est pas la première fois que les juifs se retrouvent pris dans ce type de logique. Moi, je crois que les institutions juives ont mal joué leur coup quand elles sont rentrées dans le nini macronien. Parce que le nini est vite devenu un dénini de la réalité, parce que très très vite, on a mis une espèce de trait d'égalité entre LFI et le Rassemblement national. Il faut comprendre, le nazi d'aujourd'hui, il ne dit pas Hitler, il instrumentalise Allahou Akbar. Allahou Akbar, c'est une profession de foi monothéiste, mais elle a été récupérée par les islamistes au service d'une idéologie mortifère et génocidaire. Donc on ne peut pas tracer un trait d'égalité entre ça, entre ce mal absolu. Et ce que représentent LFI, qui sont les porte-parole de l'islamisme en France, et le Rassemblement national, qui cherche à se dégager de ces anciens démons. Pour faire court, je dirais que LFI sont des démons, alors que les autres cherchent à se dégager de leurs vieux démons. Donc ça n'a pas été très, très bien joué. Je pense que ce qui nous a été dit au sujet de l'abattage rituel n'était pas non plus très bien joué, parce qu'on peut plus facilement, à mon sens, s'arranger avec des gens qui veulent se défaire de leur militants d'extrême droite, je parle du RN, qu'avec des gens qui, eux, veulent essentialiser les juifs et mettre une cible dans le dos des juifs de France. Donc là, je pense que ça n'a pas été bien joué et ça a participé à la confusion. Je pense qu'elles auraient bien fait de ne pas intervenir, surtout que sur le plan électoral, les juifs sont l'équivalent d'une poussière dans la Voie lactée. Donc c'est complètement indu. Ça, c'est la première chose. Concernant la cérémonie, moi, je me joins au cri de protestation des monothéistes. En fait, l'État est devenu officiellement wokiste. Mais un État laïque, c'est d'abord un État neutre qui, au moins, respecte certaines convictions. Au moins, les convictions des monothéistes. Il y a 38 millions de chrétiens en France, 10 millions de musulmans et une poignée de juifs. Et puis, il y a des gens qui sont croyants. Or, je n'ai pas vu la cérémonie, mais ce qu'on m'en a dit, c'était tout simplement une espèce de coup de poing dans la figure, un coup de poing wokiste, dans lequel on impose à une population. Des obscénités. Et en fait, l'État prend parti. Alors que l'État ne soit pas complètement neutre, je peux le comprendre, mais qu'il prenne parti de manière aussi outrageuse contre le monothéisme, bah, ça revient d'une certaine manière à participer à la criminalisation du monothéisme. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé en France aujourd'hui. Il y a toute une série de choses que les monothéistes ne peuvent plus faire, ne peuvent plus dire. Et il y a toute une série de choses que les monothéistes ne peuvent plus traiter comme débat. On ne peut plus débattre aujourd'hui. Donc on est un peu, d'une certaine manière, un peu dans la folie. Voilà, moi je pense que c'est une clairvoyance qu'on doit avoir, de savoir nommer les justes, les choses avec beaucoup de justesse, et de demander à l'État d'observer une neutralité. Or, l'État français est revenu ici à l'époque de la terreur. On bouffe du Vendéen, comme ici en Israël, on bouffe du rabbin. C'est pas bon. C'est pas bon, ça, c'est détestable. Et c'est pas le rôle de l'État. L'État doit garder une certaine neutralité. Je parle ici évidemment au niveau politique, sans parler ici au niveau philosophique, à des niveaux
parler
beaucoup
de
plus
la...
profonds. Où là, Finkielkraut a très très bien pointé cette espèce de folie qui s'est emparée du pouvoir, où on vient essayer de détruire la notion du sacré.
Rav Mordechai Biton, je vous remercie pour ces quelques mots et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, bon courage à nous tous.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gué, on est dans cette période de bilan de nos vies et c'est comme ça depuis des millénaires de l'année écoulée. Or nous, notre année qui commence évidemment avec Rosh Hashanah, a commencé avec le 7 octobre. Qu'est-ce que vous inspire ce moment? Un an après, qu'est-ce que vous inspire l'année qu'on a passée? Quel enseignement vous avez envie de nous donner? Quel regard vous posez sur les choses?
Oui, alors effectivement, la période que nous sommes commençant, c'est-à-dire le mois de Elul, très bientôt et après les fêtes de Tichri, ce sont effectivement des mois de bilan. Et cette année, le bilan, il est très, très particulier. Il est différent de toutes les autres années parce qu'on a été frappé très violemment, d'abord par les événements de Simchat Torah ou le 7 octobre, je ne sais pas comment vous l'appellerez, puis après la montée de l'antisémitisme dans le monde entier, les élections en France, où l'antisémitisme était toujours été un sujet très important entre les différents candidats. On a vu apparaître de l'antisémitisme porté par des partis politiques. Et donc, effectivement, une année qui a ébranlé, qui ébranle toujours beaucoup, énormément la communauté. Alors, quels sont les enseignements? Alors, il y en a énormément. Il est difficile de les résumer en quelques minutes. La première chose, j'ai vu ici se réaliser ce que nos sages prévoient depuis très très longtemps, c'est-à-dire une certaine, on va dire, une agressivité très forte de la part de Ishmaël. Ishmaël, donc, c'est le fils d'Abraham, le frère de Yitzhak. Et depuis toujours, cette relation est compliquée, elle est complexe. D'un côté, Ishmaël a énormément de qualités, puisqu'il porte le nom de Dieu, il le scande partout, et il y a une certaine grande émouna, une grande foi, et d'un autre côté, des actes de grande violence. Alors d'abord, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. Je ne pense pas qu'il faut mettre tous les musulmans dans le même sac, loin de là. Il y a des extrémistes, il y a des gens d'ailleurs qui déforment le Coran, mais qui se disent évidemment porteurs de la voix de Ishmaël, et je pense que il faut faire très attention de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Et en ce qui nous concerne à nous, lorsqu'on voit tout cela se passer, évidemment, on se demande c'est quoi l'enseignement, c'est quoi le message, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce qui s'est passé, le Simchat Torah, ou le 7 octobre, quand vous l'appellerez, c'est un événement qui, pour moi, est un dévoilement de Dieu absolument incroyable. Pourquoi je dis que c'est un dévoilement de Dieu incroyable? D'abord parce qu'il y a eu énormément de miraculés, parce qu'il ne faut pas voir que le côté négatif. Mais cette semaine, on me faisait un habitant d'Ofakim me racontait que les terroristes étaient dans la ville, qu'ils étaient à côté de sa synagogue, qu'ils avaient le plan, l'horaire, etc. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont été sauvés d'une façon tout à fait sans explication logique, vraiment d'un côté donc préservé d'une mort et d'une façon incroyable, donc il y a eu des miracles positifs. D'un autre côté, un échec total de la part de l'armée israélienne qui pourtant nous a montré aussi cette année une grande capacité opérationnelle. Elle a fait des choses extraordinaires, être capable de tuer Ismaël Haniyeh en plein Téhéran, pour parler de ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Il force l'admiration du monde entier. Et en même temps, ne pas être capable de voir 3000 terroristes se préparer à rentrer et faire sauter une barrière de sécurité. 3000 qui sont là alors que l'armée israélienne a du mal à se mobiliser, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Si on ne croit pas en ce qu'on appelle l'Ashgaha Pratit, l'intervention divine, on a du mal à s'expliquer toutes ces... ces événements. Donc pour moi, cette année a été une année où la présence d'Hachem, sa présence sur Terre et son implication s'est révélée de façon éclatante. Et j'en passe sur d'autres, hein, parce que évidemment je fais très court, mais moi, ma Emouna, elle a été renforcée par cette année. Et surtout aussi, le fait que beaucoup de gens avaient une confiance absolue dans l'armée israélienne, dans les forces de sécurité d'Israël, et qui aujourd'hui se posent des questions. Et effectivement, une des raisons pour laquelle nous vivons, c'est de nous apprendre un principe. En lanu leishaen el avinu shebashamayim. Notre seul vrai appui, c'est notre maître Hachem qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que, quelque part, je sens une fragilité, un sentiment de fragilité, même de fébrilité dans la communauté française, mais d'une façon générale dans le monde entier, chez les Juifs du monde entier, un sentiment comme ça d'être abandonné, rejeté, détesté des fois, et quelque part avec une grande question sur notre capacité à nous protéger. On n'avait jamais vu depuis la Shoah, je pense qu'on peut dire depuis la Shoah. Et ce sentiment-là, il ne faut pas en voir qu'un côté négatif. Il y a évidemment quelque chose d'angoissant, mais ce qui est très positif, c'est que nous voyons, nous les rabbanim, nous voyons beaucoup de gens se renforcer dans leur émouna et dans leur lien avec Hachem. Et en fait, le but des fois de tous ces événements, c'est de nous rappeler cela. C'est que c'est Hachem qui nous soutient, qui nous aide, qui nous protège, qui nous accompagne. Et des fois, effectivement, il se fâche un peu, il nous met un petit peu dans une situation de fragilité pour nous rappeler des éléments qu'on oublie. Malheureusement, on oublie facilement. Et Hachem nous le rappelle. Maintenant, il nous le rappelle tout en montrant qu'il nous aime. C'est ça qui est assez incroyable. Il nous dit, je te frappe, mais en même temps, je te montre que je suis ton père, donc je ne veux pas trop frapper, mais en même temps, je te frappe, et en même temps... Là, par exemple, la période dans laquelle le peuple juif se trouve, est-ce que l'Iran va frapper, est-ce que tous ces événements-là qui se sont succédés nous montrent comme ça une sorte de fragilité, de fébrilité, de peur, mais qui finalement on doit le transformer en force. Parce que le peuple juif n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il avait confiance en Dieu. Et c'est lorsqu'il perd sa confiance en Dieu qu'il devient très fragile, parce que lorsqu'il se passe et il s'appuie sur sa force armée uniquement, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Réfléchissons bien. Si tout le Moyen-Orient s'unissait contre nous, et les Arabes israéliens, et les Arabes des territoires, qu'est-ce qu'on pourrait faire, même si on a une très bonne armée, etc. Donc il faut tout le temps se renforcer dans cette dimension de l'aïmouna, de la confiance, de la croyance. C'est notre devoir, mais c'est aussi plus facile cette année que jamais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sentiment d'être rejeté ou, on va dire, détesté par tant de gens, et ce deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, c'est un sujet qui est revenu je ne sais combien de fois cette année. Pourquoi, avec Israël, on est aussi exigeant ? Lorsqu'il s'agit de Daesh, on bombarde et on ne pose pas de questions. Lorsqu'il s'agit, il y a eu plein d'exemples de tyrans qui ont tué je ne sais combien de millions de personnes ou de centaines de milliers de personnes, ça ne dérange personne. Et puis tout d'un coup, Israël, dès qu'il y a le ministère de la Santé, entre guillemets, hein, je dis bien le ministère de la Santé palestinien, qui dit des chiffres qui ne sont pas vérifiables et pas vérifiés, tout le monde prend ça pour argent comptant et accuse Israël de génocide devant, par exemple, le tribunal de l'Aïe. On se dit, mais c'est quand même bizarre, ce deux poids, deux mesures. Pourquoi avec Israël, on ne laisse rien passer ? Alors d'un côté, c'est très dur à supporter, c'est le shéker, le mensonge, c'est très dur à supporter. Et en même temps, ça nous donne à nous une idée de ce qu'est vraiment le monde. Le peuple juif est censé être le phare des nations. Le phare des nations, celui qui porte le message, justement, de la morale dans le monde entier. Au peuple juif, on ne laisse rien passer. On nous dit, écoutez, alors c'est peut-être passé, chez ceux qui parlent, c'est souvent des calculs extrêmement, on va dire, odieux et des calculs politiciens ou toutes sortes de calculs divers et variés qui sont souvent pour origine de l'antisémitisme. Ça, c'est une chose. Ça, c'est leur calcul. Mais moi, mon propos, c'est de dire que lorsque j'entends tout cela, je me dis... J'ai une mission à faire dans ce monde. Loin le peuple juif, je ne parle pas de moi, le peuple juif tout entier, il a une mission très importante et d'être un phare des nations. Il doit être irréprochable, on exige de nous, on attend de nous beaucoup plus qu'on attend d'autres personnes. Pourquoi ? Ben, c'est toujours comme ça, le premier de la classe, les gens, la personne qui se dit être le peuple élu, eh bien, il faut qu'il porte un message qui est absolument parfait. Alors, si on ne le comprend pas à 100%, eh bien, on attaque, on accuse, et on est beaucoup moins compréhensif lorsqu'il s'agit de l'État d'Israël, du peuple juif tout entier, ou dans son ensemble, que lorsqu'il s'agit de n'importe quelle autre nation. Donc, d'un côté, ça nous énerve, ça nous fâche, mais d'un autre côté, ça nous montre que, véritablement, on a un rôle spécial, effectivement, à assumer, qui est celui d'être un phare pour les nations, et à nous de l'assumer. Est-ce qu'on l'a assumé jusqu'à présent ? Sans doute pas assez. Et Dieu, quelque part, à travers ces différentes accusations, il veut nous dire, bon, n'écoute pas celui qui parle, comme l'a fait David Ameller, lorsque Shimi Ben Gera l'a maudit, il lui a parlé d'une façon extrêmement irrespectueuse lorsqu'il est parti de Jérusalem à cause de son fils Avshalom. Shimi Ben Gera, qui était le chef du Sanhédrin, lui a parlé d'une façon terrible et il n'a pas réagi en disant si il peut parler ainsi, c'est Dieu qui lui donne le droit de parler ainsi et c'est que c'est Hachem qui veut me faire passer un message. Donc moi, lorsque j'entends toutes ces paroles négatives et désagréables, après le moment de colère, je me pose et je me dis, mais finalement, pourquoi Hachem veut que j'entende ça aujourd'hui? Quel est le message que je dois entendre à travers toutes ces accusations? C'est comme ça que j'essaie de réagir en tant que juif qui essaie de se remettre en question à travers tous les événements qui se passent, en me disant, ils sont là pour me construire, ils sont là pour me faire avancer. Ils ne sont pas là pour simplement me faire rager devant ma télévision, devant mon portable, devant mon ordinateur. Ils sont là pour me faire passer un message. David a dit, si Shimi Ben Gera parle, c'est que c'est Dieu qui parle à travers lui. Donc ce n'est pas à lui qu'il faut en vouloir, c'est à Dieu. Mais Dieu, on ne lui en veut pas, parce que Dieu est toujours juste. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Donc s'il nous envoie un message, il faut savoir l'entendre. Et nous l'entendons. En tout cas, en ce qui me concerne, j'essaye de l'entendre et de le décortiquer. Et j'entends tellement de choses qui nous font réfléchir et avancer, puisque je vois que la communauté, d'une façon générale, j'ai l'impression qu'elle a fait une avancée forte et profonde suite à ces événements. Elle se remet en question, elle essaie de chercher sa véritable identité et de comprendre c'est quoi être juif, pourquoi est-ce qu'être juif nous oblige à tant de devoirs que finalement qu'on ne voudrait pas assumer, mais qu'on voit qu'on n'a pas le choix d'assumer. Pourquoi est-ce que des gens qui ont accueilli des Palestiniens, qui les ont aidés, soignés, se retrouvent avec ces mêmes Palestiniens venir les tuer sans la moindre pitié, alors qu'ils ont été leurs alliés? Pourquoi? Parce qu'ils sont juifs. Et ça aussi, ça fait réfléchir. C'est pourquoi est-ce qu'on me tue? Parce que je suis juif. Je suis un juif qui vous aime, vous les Palestiniens. Non. Je suis juif, donc c'est quelque chose qui dérange ce Ishmael. Alors au-delà de ses raisons à lui, moi j'entends un message de Dieu, Dieu qui me dit, mais tu es juif, tu as un rôle spécial, particulier, extraordinaire à assumer, il faut que tu l'assumes. Alors comment on l'assume? Eh bien moi je pense qu'à part ce renforcement dans la croyance en Dieu, dans la dépendance de Dieu que nous devons tous renforcer cette année, en faisant le bilan de cette année, et en s'approchant de l'année prochaine, eh bien, au-delà de cela, nous devons véritablement être extrêmement exigeants dans notre moralité du quotidien. Évidemment, nous n'allons pas influencer le gouvernement d'Israël, est-ce qu'il fait bien, pas bien, ce n'est pas notre sujet. Et d'ailleurs, je dis entre parenthèses que je n'apprécie pas trop tous ceux qui critiquent ce que ne font pas le gouvernement. On ne sait pas vraiment, nous qui écoutons simplement les médias, ce qui se passe vraiment sur le terrain, quelles sont véritablement les options. Beaucoup d'éléments sont cachés, beaucoup de choses sont cachées parce que c'est une question de sécurité. C'est très difficile de s'exprimer lorsqu'on n'a pas tous les éléments en main. Et personne d'entre nous, qui ne sommes pas dans les secrets de l'armée israélienne, ne vont savoir exactement ce qui se passe et pourquoi et comment. Donc déjà, j'aime pas trop les gens qui parlent en critiquant sans savoir. C'est facile de critiquer, c'est très très difficile de faire. Mais quoi qu'il en soit, je ferme la parenthèse, cette notion de critique absolue, etc., d'avoir une moralité, je parle entre nous maintenant, dans notre quotidien, nous devons nous élever, nous devons dire, voilà, nous sommes des Bnei Israël, on nous a désignés. C'est qui nous a dit, l'antisémitisme nous a désigné comme étant des personnes qui devons nous conduire beaucoup mieux que n'importe qui. À travers ce message, j'entends une mission que Dieu me donne d'être un phare dans ma vie au quotidien pour tout mon entourage et qu'au contraire, forcer l'admiration des juifs comme des non-juifs qui m'entourent en disant, ah, mais non, les juifs, ce sont des gens bien. Ce ne sont pas des gens qui font du génocide, c'est des gens qui sont très bien. Et le faire à travers notre conduite à chacun d'entre nous au quotidien. C'est comme ça que je vois le message d'Hachem dans ces événements. Et je vois aussi que nous nous approchons quand même rapidement de la fin des temps, puisque le galout Ishmael, l'exil de Ishmael, est le dernier avant la venue du Messie, comme l'a dit le Baal HaTourim à la fin de la paracha de Chaye Sara, où il dit « Valpene kolechav nafal, Ishmael est tombé, ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham », et à ce moment-là, Yitzhak, fils d'Abraham, les descendants d'Yitzhak ben Avraham prendront leur place, parce que lorsque Ishmael tombera, ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, c'est qu'ils vont accepter et reconnaître la présence du peuple juif en Eretz Israël, ils vont l'accepter un jour, comme Ishmael a fait Teshuva, eux aussi le reconnaîtront un jour, et à ce moment-là, la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham, c'est-à-dire les enfants d'Israël, relèveront la tête et s'installeront, et il y a une accélération de l'histoire, qui nous fait penser qu'on est vraiment, vraiment arrivé à la fin du fin et que les choses, des très, très belles choses nous attendent. Après avoir vu des choses terribles, nous verrons des belles choses. Et puis, n'oubliez pas d'oublier que cette année, il y a quand même eu un élément de solidarité incroyable dans le peuple juif, en tout cas au début, les premiers mois. ou les premières semaines. Et ça, ne l'oublions pas, parce qu'à la fin, il y a eu des choses différentes. Et surtout, ne faisons pas l'erreur qu'on peut faire en écoutant de nouveau les médias, de croire qu'une minorité représente la majorité. Il y a des gens qui sont une minorité, qui parlent fort, et qui donnent le sentiment que c'est eux qui sont... Voilà, que tout Israël pense comme ça. Je pense que, d'une façon générale, en tout cas dans beaucoup de domaines, une unité plus forte s'est faite, même si malheureusement, on est loin d'arriver au bout. Mais je pense qu'il ne faut pas voir que les critiques et la partie négative qui cachent des belles choses qui se font encore et qui se sont faites cette année.
Eh bien,
en quelques mots. Hein,
Ah bah c'est difficile de résumer une année, évidemment, surtout comme celle-là, qui restera dans nos mémoires jusqu'à la fin de nos vies. Donc c'est sûr que c'est très difficile. Et moi, sous votre contrôle, je pense qu'on peut terminer notre réflexion de ce soir en espérant qu'on va passer des fêtes dans l'unité, dans l'harmonie, chacun sous son talit, avec son propre bilan, son propre... les comptes avec lui-même, et tous ensemble pour ce qui est de notre vie en commun. Je suis certain que vous êtes d'accord avec moi pour qu'on termine notre...
Oui, je pense que ça aussi, c'est un élément très important, c'est que on va évidemment chacun faire son bilan personnel, mais je pense que la conscience d'être un peuple a été renforcée rien que par le fait que nous sommes attaqués de toutes parts, menacés de toutes parts. Ça a renforcé aussi notre sentiment de faire partie d'un seul peuple. Malheureusement, l'antisémitisme et la haine de l'autre nous fait ressentir encore un peu plus que nous sommes un seul peuple. C'est dommage que ce soit dans des événements aussi pénibles que nous le ressentions, mais on a bien ressenti lorsque ça s'est passé le 7 octobre, le Simchat Torah, que ce n'était pas tel ou tel kibbutz qui était attaqué, mais c'était véritablement chacun d'entre nous qui était attaqué, et on a ressenti un vrai élan, un réveil incroyable de la conscience d'être un seul peuple.
Rav Guay, je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.